FM.com pour toute nouvelle, annonce ou info pertinente afin que nous puissions les transmettre à nos auditeurs. La fréquence bleue, la fréquence qui vous parle et vous informe.
Les actualités Cogeco Nouvelles.
Le jeudi 24 avril, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. On débute avec un autre coup dur pour l'image de Desjardins. Le journal de Montréal écrit aujourd'hui que plusieurs employés de l'institution financière ont imité à répétition la signature d'un commissaire à l'assermentation avant de remettre des documents aux forces de l'ordre. Alors, des dizaines d'enquêtes policières et de procès sont ainsi en péril. Les gestes reprochés seraient survenus lors d'enquêtes criminelles d'envergure partout au Québec au cours d'une période couvrant plusieurs années jusqu'à tout récemment. Selon une source du journal, il était devenu monnaie courante chez Desjardins d'imiter la signature du commissaire pour accélérer le délai de traitement des dossiers demandés par la police. Rappelons que les renseignements fournis par les banques sont souvent utilisés par les autorités afin d'obtenir des mandats de perquisition. Campagne électorale, le chef conservateur serait à risque de perdre son siège dans sa circonscription de la région d'Ottawa. C'est selon The Globe and Mail. Le parti de Pierre Poilievre aurait envoyé des bénévoles supplémentaires, semble-t-il, dans ce comté détenu depuis 2004, dont certains ayant une forte expérience lors de luttes très serrées au sein de circonscriptions lors d'élections précédentes. Une source libérale a affirmé que leur candidat dans le secteur de Carleton, Ottawa, Bruce Fanjoy, obtiendrait actuellement 48% des intentions de vote contre 49 pour M. Poilievre. Québec admet qu'il envisage d'instaurer un code de couleur en fonction de l'état de santé des patients inscrits auprès d'un groupe de médecine familiale. La Fédération des médecins omnipraticiens s'en inquiète, bien sûr, mais le ministre Christian Dubé soutient que personne ne va perdre son médecin de famille. Louis Lacroix.
En octobre, l'INES proposait de classer les patients par code de couleur pour donner priorité aux plus vulnérables. Vert, jaune, orange ou rouge, le code existe déjà, confirme le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Il y a un code de couleur qui a été mis en place par l'INES, qui est disponible et ça fait partie des négociations qu'on a.
Mais la Fédération des médecins omnipraticiens craint que ça mène à la désinscription de certains patients, ce que rejette le premier ministre François Legault.
Il n'est pas question d'enlever des médecins de famille à des patients.
Le solidaire Vincent Marissal fait le parallèle avec la Société des alcools.
Pastille de couleur, là, c'est ludique à la SAQ. Mais c'est dangereux en santé.
Et le ministre indique qu'il y a déjà un filtre de pertinence pour filtrer les patients.
Tout ça est tenu en compte pour s'ajuster aux besoins du patient.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Une enquête dévoilée aujourd'hui par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse déplore des pratiques favorisant le placement en famille d'accueil et l'adoption plutôt que l'intérêt des enfants au sein de la Direction de la protection de la jeunesse de la Mauricie et Centre du Québec. Les cas de 140 enfants placés ont été analysés. Alors, les pratiques du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la région ont eu pour effet de freiner le développement ou encore le maintien des liens entre des enfants et leurs parents et de favoriser leur admissibilité en adoption en violation des principes de la loi sur la protection de la jeunesse. La commission recommande ainsi de réviser l'ensemble des décisions de placement ou encore de mise en adoption prises depuis janvier 2023. Au hockey, les Capitals ont défait le Canadien de Montréal 3-1 hier soir à Washington dans le deuxième match de leur série de premier tour. L'attaquant Patrick Laine a été cloué au banc par l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis en troisième période, tandis que les attaquants Joel Armia et Emil Hanneman n'ont effectué qu'une et deux présences sur la patinoire. On écoute rapidement Samuel Montembeau.
Oui, bonjour, vraiment un match simple, un match assez intense, surtout en deuxième. Puis on amenait les rondelles bas, ils travaillaient, ils allaient chercher les rondelles, puis amener ça à la pointe. Puis aussi,
confrontation. Il dit, le message que je donne, que les gens le comprennent bien, ce n'est pas pour empêcher la machine de fonctionner que je veux le maximum de sièges, c'est pour que la machine fonctionne aussi dans les intérêts du Québec. Donc, il se dit, les gens, plus que jamais, puis je t'en parle régulièrement, se disent, ouf, gouvernement minoritaire, on pourrait passer un tour. On a besoin de stabilité dans la crise actuelle. Donc, gouvernement minoritaire, c'est de l'instabilité, c'est un parlement qui est dysfonctionnel. Mais là, lui vient dire, écoutez, ça va être tout doux comme gouvernement minoritaire si vous nous donnez la balance du pouvoir. On va bien faire ça. Et là, il va même plus loin en disant que Mark Carney, c'est un gars parlable. en rappelant que Mark Carney, après le débat des chefs, lui a donné lui-même son numéro de cellulaire en disant « Appelle-moi pas trop souvent, mais tu peux m'appeler. » Mais il dit « C'est quelqu'un qui peut être parlable. On est tout à fait en mesure d'être de bons collaborateurs. » Écoute, il y a à peu près quoi, 3 semaines de ça à ce micro, il disait à peu près qu'il préférait Pierre Poilievre parce qu'il craignait Mark Carney, ne le connaissait pas et tout ça.
Qu'est-ce que ça dit, ce changement de discours et ces propos-là?
Ça dit qu'on veut rassurer les gens qui ont crainte d'un gouvernement minoritaire et de leur dire, regardez, le Bloc québécois, nous, on va travailler avec ce gouvernement. Vous avez une sympathie envers Carney, vous le trouvez rassurant, ben dites-vous que nous aussi, on pense qu'on peut travailler avec lui. Il oui. va être élu, on va travailler avec lui. Maintenant, faites-nous confiance pour défendre un peu plus le Québec. Mais écoute, c'est de bonne guerre comme stratégie. Mais le côté un peu risqué de ça, c'est qu'il fait passer Mark Carney pour un bon gars.
Oui.
S'il y a des gens qui hésitent, mais François Blanchet est en train de vous dire, sérieux, moi, j'y ai parlé, là, puis faites-moi confiance, le gars, il est parlable. Là.
Donc, ça pourrait avoir l'effet contraire de pousser des gens dans les bras de M. Carney.
C'est un peu risqué, je trouve.
OK.
Un peu.
Du côté des conservateurs maintenant, Jonathan, tu as appris qu'il y a eu une modification à l'horaire du chef Pierre Poilievre pour aujourd'hui.
Très intéressant. Là aussi, contente d'analyser les considérations stratégiques. Depuis hier matin, l'horaire de Pierre Poilievre nous annonce un événement médiatique du côté d'Halifax ce matin en Nouvelle-Écosse et un rassemblement du côté de Saskatoon, donc dans l'ouest du pays, en fin de journée. Or, j'ai reçu un téléphone hier.
Oh!
Imagine-toi donc, Pierre Poilievre va être de passage dans les studios du FM 93
non.
à 13h15 ce
non.
midi avec Jérôme Landry et moi. Fait qu'écoute, j'ai hâte de voir le reste de la journée, mais il y a comme un arrêt au Québec qui s'est ajouté. On me dit que c'est une tournée d'entrevue qu'il va faire pour parler, oui, aux gens de Québec, mais au Québec en général. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à Québec, on est peut-être en mode gain potentiel du côté des conservateurs. Deux comtés, le côté de Beauport-Limoilou, qui est peut-être un des comtés qui a le plus fait jaser dans toute la campagne électorale au Québec, parce qu'il y a vraiment une lutte à trois qui se dessine là. Et également Montmorency, Charlevoix. Donc, Pierre Poilievre qui change son agenda et qui va être de passage. Maintenant, est-ce qu'il va changer son agenda pour aller dans son comté de Carleton?
Dans la région d'Ottawa? Parce que, écoute, coup de tonnerre, ça c'est intéressant. À la une du Globe and Mail, M. Poilievre qui serait en danger dans son propre comté, le parti est obligé de mettre des ressources supplémentaires de ces jours-ci.
Et je notons que tu parles du Globe and Mail, mais le Toronto Star avait sorti un article hier soir qui disait essentiellement la même chose. Donc, c'est pas juste un journaliste qui a parlé à deux, trois personnes. Non, c'est deux médias d'importance qui rapportent essentiellement les mêmes éléments. Donc, on envoie des ressources du QG, des ressources seniors pour aller aider, faire du porte-à-porte, faire sortir le vote, alors que normalement, les ressources comme ça, on les envoie dans des comtés stratégiques qu'on veut gagner en fin de course ou qu'on veut absolument sauver. Le comté de ton chef, normalement, ne devrait pas être à risque.
Il y a eu un redécoupage aussi, en toute justice, semble-t-il, là, qui a pas avantagé M. Poilievre.
Et il y a des conservateurs qui me faisaient valoir ce matin que cette circonscription-là, ce n'est pas un comté facile et que, à titre de comparaison, en 2019, Pierre Poilievre avait frappé pratiquement toutes les portes de son comté. Or, là, il est chef du parti en campagne nationale. On me dit qu'il a passé à peine quelques heures dans son comté. Donc, c'est normal que ce soit plus serré, mais qu'il considère quand même l'emporter. Mais écoute, je vérifiais juste avant d'aller en ondes sur 338 Canada, le site de Philippe Gifournier, pour te donner une idée. Dans le comté de Carleton, au moment de l'élection de Mark Carney, les projections du site donnaient les conservateurs 30 points en avance, 57-27. Et aujourd'hui, c'est seulement 9 points. On est à 50-41. Et les libéraux qui disent, eux, dans leur sondage interne, qu'il y aurait à peine un point de différence entre les deux.
OK. Disons que les conservateurs ne forment pas le gouvernement. Puis là, je te demande de faire un petit peu de prospective, là, de politique fiction. Est-ce que Pierre Poilievre peut rester chef? Première question.
En situation de gouvernement minoritaire, probablement plus qu'en situation de gouvernement majoritaire.
Okay.
Les conservateurs ont tendance à manger leurs chefs qui sont défaits. On l'a vu avec Aaron O'Toole, avec Andrew Scheer, et particulièrement dans un contexte où les apparatchiks conservateurs diraient, écoute, tu avais 25 points d'avance. Comment as-tu pu bousiller ça? Je suis pas certain que même dans un contexte de gouvernement minoritaire, on lui pardonnerait. Ce qui m'amène, moi, toujours à penser que tant qu'à perdre ton élection, tu es aussi bien de perdre ton comté aussi. Mais j'ai pas l'impression qu'on est rendu à ce niveau-là de retranchement du côté des conservateurs non plus. Là.
Parce que s'il perd, s'il T'sais, s'il perd l'élection générale, s'il ne forme pas le gouvernement et il perd son siège, là, on se comprend, les carottes sont cuites pour lui.
Absolument.
OK, on revient au Québec. Là, il y a Christian Dubé et François Legault qui ont juré, Jonathan, là, qu'il est hors de question de retirer le médecin de famille aux Québécois qui sont en santé, contrairement à ce qu'avance la Fédération des médecins omnipraticiens.
Écoute, point de départ de mon propos. Disons-nous une chose, là, on est en négociation. Et les deux parties négocient. Il y a la FMOQ et il y a le gouvernement. Il faut être conscient de tout ça quand on regarde ce qui se passe. Et là, j'ai entendu des gens être très, très, très sévères envers la FMOQ. Puis c'est correct, on doit être méfiant. Puis oui, comme François Legault le dit, c'est un syndicat de médecins. Ils aiment ça mettre l'emphase là-dessus. Et il n'y a pas tort, ils ont une game à jouer. Et là, ils disent, mais c'est complètement fou, c'est faux ce qu'ils disent. Écoute, j'ai lu et relu le texte de Véronique Prince de Radio-Canada qui cite un extrait du document que la FMOQ s'est vu remettre à la table de négociation et qui dit « Les patients en bonne santé seraient redirigés vers un guichet d'accès à la première ligne modifié. Seuls les patients en moins bonne santé auraient un médecin de famille. » Là, c'est parce que c'est écrit noir sur blanc. On peut dire, écoutez, on va le nuancer, on va le préciser, blablabla. Mais peut-on à 100% reprocher à la FMOQ d'avoir souligné qu'il y avait ça dans un document?
On peut reprocher à FMOQ dans un contexte de négo de l'avoir coulé. Tu peux dire non, mais de le couler, c'est parce que ton adversaire est soudainement sur la défensive.
Et c'est là qu'il y a un jeu de négo qui intervient. Oui. Mais regarde, moi, je ne mets pas en doute la parole du premier ministre et du ministre de la Santé qui nous disent « on n'ira pas là ». Par contre, j'attire ton attention sur deux points. On me faisait valoir hier que la raison pour laquelle on veut changer le mode d'identification de votre profil, que ce soit plus le médecin qui vous donne une espèce de code, que ce soit l'INES avec une méthode scientifique, déjà là, tu vois, j'ai une petite crainte, à partir de votre dossier médical et tout ça, c'est qu'on veut que les médecins prennent tous les patients et non pas les patients plus vulnérables qui ont une cote qui les rend plus payants.
Ouais.
Okay? C'est ce qu'on me disait hier. Donc, les médecins auraient tendance à les coter plus vulnérables parce que c'est plus payant. Sauf que, tu te rappelleras qu'il y a un an, Christian Dubé a passé un règlement pour forcer les médecins omnipraticiens à prendre en charge tous les patients vulnérables, prétextant que ces patients-là étaient plus lourds et moins payants, donc que c'était plus payant d'avoir des patients qui représentaient moins de risques. Tu comprends-tu que j'y vois comme un manque de cohérence? Branchez-vous. Ils veulent les plus vulnérables parce qu'ils sont plus payants ou ils ne veulent pas parce qu'ils prennent plus de temps et ils ne sont pas payants? Premier truc. Deuxième truc, on me disait que la démarche vise à enlever la notion de subjectivité. Donc, l'omnipraticien pourrait donner une cote plus à risque parce que c'est plus payant et qu'il y a un intérêt financier là-dedans. OK. En même temps, la notion de subjectivité, elle est au cœur de ce qu'on appelle le jugement médical. C'est-à-dire qu'un médecin, là, tu t'attends pas à ce qu'il regarde juste une grille d'analyse puis qu'il fasse 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Non, non. Justement, on veut qu'il y ait quelque chose de subjectif, que lui, il connaisse son patient, puis selon telle circonstance, il peut. Fait que je laissons la chance aux discussions, laissons la chance aux coureurs, mais je fais juste dire que dans l'approche, dans la façon du gouvernement de présenter les choses, je trouve qu'il y a quand même questions qui sont pertinentes de soulever au-delà des enjeux de négociation qui sont bien clairs d'un côté comme de l'autre.
Merci, Jonathan. Bonne entrevue avec M. Poilievre. Météo.
Alternance soleil et nuages aujourd'hui avec 60% de risque d'averse tard en après-midi, maximum 11 degrés. Généralement nuageux en soirée, toujours avec 60% de risque d'averse. Brouillard au cours de la nuit pour un minimum de plus 2 degrés.
Fréquence bleue, Siki FM 90.3. Pour tout savoir ce qui se passe dans notre région, des nouvelles fraîches, des perspectives claires, une station. Siki FM. Notre engagement, vous livrer l'information sans compromis. Avec François Tremblay, c'est Bonjour Montmagny.
Et bon début de journée. Merci d'être avec nous ce matin.
Tout à l'heure, j'évoquais pour ceux qui étaient avec nous là, à la fin de la première du premier 30 minutes, la présence de Diane Sénécal sur nos ondes. Elle sera là d'ailleurs aux alentours de 7h50. Juste avant, on va partir jaser et prendre des nouvelles de Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL, qui va tirer sa révérence prochainement. On aura le plaisir aussi, puisqu'on est jeudi, de retrouver avec bonheur Jean-Guy Desrosiers dans le cadre de sa chronique politique municipale.